la geek de service.
Je poursuis avec mon ménage numérique. Commençons donc par parler des photos. Nos appareils mobiles nous permettent de prendre une multitude de photos. On n'a plus besoin d'attendre que nos photos soient développées à la pharmacie pour voir si on en a une de bonne. On peut prendre 24 fois la même photo sans que ça nous coûte un nouveau rouleau de film. Je trahis mon âge présentement. Mais ça vient aussi avec certaines limites au niveau du stockage de photos. Donc, vous avez peut-être des photos sur des clés USB, sur des disques durs, sur votre appareil ou dans des outils en ligne. Donc, pourquoi pas prendre un peu de temps pour réfléchir à comment on va faire une sauvegarde de photos. Si vous avez tout ça sur votre appareil mobile et que vous n'avez jamais fait de sauvegarde, il serait peut-être temps à penser à un outil de sauvegarde. On n'est jamais à l'abri d'une perte de notre appareil mobile où tout à coup, il n'ouvre plus et là, on vient de perdre 50 photos. Donc, c'est une bonne idée de regarder les options de stockage de photos qui s'offrent à nous. J'utilise personnellement depuis plusieurs années Google Photos, mais qui a annoncé récemment des limites au niveau du stockage. Je vous en reparle rapidement. Sinon, ben il existe d'autres programmes. J'utilisais par exemple Flickr par le passé, que j'ai dû abandonner parce qu'ils ont changé leur modèle aussi. Et là, j'aurais dû payer, donc je me suis tournée vers Google Photos, qui maintenant me met des limites aussi. Apple Photos est une autre solution, mais a également ses limites. Il faut donc faire un choix puis regarder combien de photos on a et choisir le bon info nuagique ou le bon outil pour sauvegarder nos photos. Par rapport à Google Photos, l'annonce qui a été faite, c'est qu'après le 15 juin, toute nouvelle photo qui va être ajoutée dans l'espace va compter dans notre 15 gigaoctets de base qui est avec un compte gratuit. Par la suite, ben on a des forfaits qui nous permettent d'acheter plus d'espace. Ça va quand même assez vite avec des photos, encore plus avec des vidéos. À moins d'avoir un Google Pixel, c'est l'exception. Mais sinon, c'est toujours possible d'acheter de l'espace et de continuer à l'utiliser. Par contre, tout ce qui a été mis sur Google Photos avant le 1er juin ne compte pas. Et si on y touche pas, là, il n'y a pas de souci, mais tout ce qu'on va rajouter par la suite va compter. Pour voir à la vitesse que vous allez de remplir votre compte, il y a un petit outil offert par Google Photos. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Ça vous permet d'avoir une idée de où vous en êtes et on vous fait aussi une espèce de petite prédiction, selon vos habitudes de stockage, ben ça vous prendrait combien de temps avant d'arriver à votre limite. De mon côté, Google semble me dire que dans 4 ans, je vais arriver à ma limite si je continue de la même façon. J'ai un Pixel, donc ça devrait m'aider, mais ça fait réfléchir quand même si 4 ans, ça a l'air bien loin. J'aime mieux ne pas attendre dans 4 ans de me retrouver avec un ménage des 8-10 dernières années à faire dans mes choses. Donc, on peut tout de suite aller prendre certaines bonnes habitudes. Des petites astuces, passer d'une qualité de photo originale à la haute qualité de photo qui va prendre moins d'espace. Par contre, je suis tout à fait consciente que si vous êtes un photographe, que vous tripez photo, bien, vous allez vouloir garder vos photos dans leur qualité originale pour pouvoir, par exemple, les imprimer en grand. De mon côté, la majorité de mes clichés servent à être envoyés sur les réseaux sociaux, par exemple, donc la haute qualité est tout à fait suffisante. J'ai déjà imprimé des photos en 8 par 10 pour des cadres à la maison. La qualité était suffisante pour moi. Par contre, un vrai photographe va me dire que ma qualité n'était pas au rendez-vous. Donc, à vous de voir. Moi, personnellement, j'ai enlevé le stockage automatique pour me permettre de choisir manuellement ce que je veux envoyer dans Google Photos. Donc, ça ne se fait pas automatiquement. J'ai enlevé pour pouvoir justement faire le ménage et pouvoir décider de ce qui s'en va. Par contre, c'est facile d'oublier d'aller faire notre backup. Donc, si c'est pas quelque chose que vous êtes super discipliné, j'enlèverai pas cette fonction-là et je laisserai le stockage automatique se faire. Mais on est conscient qu'il y a un paquet de belles photos qu'on veut garder. Mais on utilise aussi notre appareil numérique pour, par exemple, prendre une photo d'une facture pour envoyer une preuve à quelqu'un. Est-ce qu'on a vraiment besoin de garder ça pendant 4 ans? Peut-être si c'est pour nos impôts ou autre, mais peut-être que c'était pas nécessaire. Ça m'arrive souvent d'utiliser mon appareil photo pour prendre une photo de l'espace de stationnement et de l'étage où je suis pour retrouver mon véhicule par la suite. Pourquoi garder ces photos-là? Parfois, on a des photos floues, des photos qui ne sont pas de bonne qualité. D'ailleurs, Google Photos est supposé nous arriver avec un outil pour nous dire telle photo, c'est flou ou la luminosité est pas assez bonne. Voulez-vous vraiment les sauvegarder? Donc, ça pourra nous aider, mais on peut décider de faire le ménage soit avant désactivant le storage automatique ou on le fait après. Donc, on se donne, par exemple, comme objectif à une fois par mois de passer au travers des dernières photos du mois et d'effacer ceux qui n'ont pas besoin d'être gardés. Ça peut nous aider. Sachez que si vous décidez d'abandonner Google Photos puis de mettre vos photos ailleurs, il y a des options dans les réglages qui vous permettent de télécharger une copie de tout ce que vous aviez dans votre Google Photos. Armez-vous de patience si vous en avez beaucoup, là, vous allez avoir besoin d'une bonne connexion Internet et de beaucoup de temps. Il faut pas que ça plante en plein milieu du téléchargement parce que vous allez vous reprendre plein de fois, vous allez avoir plein de choses en double, mais c'est possible. Par la suite, après ça, on peut aller tout effacer sur Google Photos si on veut, mais en s'assurant que ça a bien transféré ailleurs. Je vais vous mettre aussi dans la description de l'épisode un super bon article de l'actualité qui nous parle des options pour remplacer Google Photos si c'est ce que vous voulez faire. Bien sûr, vous pourriez simplement continuer avec Google Photos, vous acheter de l'espace et continuer de la même façon, mais on nous présente certaines options gratuites qui pourraient remplacer d'autres options qui sont payantes. Amazon Photo n'est pas gratuit, mais souvent, lorsqu'on est abonné à Amazon Prime, on ne réalise pas qu'on a un outil pour faire du storage de photos. On peut storer nos photos de façon illimitée. Les sauvegardes de vidéos sont limitées, par contre, mais les photos, elles, sont illimitées. Si on paye déjà notre 79 $ par année pour Amazon Prime, donc pourquoi pas regarder cette option? Vous pourriez regarder aussi au niveau d'Office 365. Souvent, quand on paye pour Office 365, ben on a un espace pour les photos aussi. Peut-être que c'est plus d'espace que ce que vous aurez avec d'autres outils. Donc, à vous de voir. Même chose avec Apple. Est-ce que vous payez déjà, par exemple, pour votre iCloud? Peut-être que c'est suffisant ce que vous payez déjà pour accueillir toutes vos photos. Flickr, dont j'ai parlé tantôt, offre un forfait illimité payant qui coûte 77,88 par année. Donc, à vous de voir si c'est quelque chose que vous voulez regarder. Faut savoir, par contre, que Flickr a un petit côté réseau social aussi. Donc, faut regarder nos paramètres de partage. Sinon, nos photos peuvent être réutilisées par d'autres. Donc, assurez-vous de tout bien lire. Une autre option plus chère mais intéressante aussi, c'est le forfait photographie d'Adobe. Donc, si vous faites beaucoup de photos, mais lorsqu'on s'abonne à la suite d'Adobe avec Lightroom, Photoshop et autres, c'est quand même un coût de 311 $ là, par an pour 1 Teraoctet d'espace. Si vous allez faire des photos un petit peu plus professionnelles, peut-être que d'avoir ces outils-là, plus l'espace de storage pour vos photos est la solution pour vous. Donc, à vous de voir. On vous explique aussi dans l'article comment faire une sauvegarde, comment transférer vos photos. Donc, je vous mets le lien dans l'épisode pour vos photos numériques. Un autre ménage important est celui de vos extensions dans votre navigateur. Posez-vous la question si vous avez vraiment besoin de chacune des extensions qui sont installées. Et faites attention dans Chrome d'aller voir la petite pièce de puzzle. Parfois, on a l'impression qu'il y en a 3-4 d'installées, mais on en a beaucoup plus que ça. C'est qu'elles ne sont pas épinglé dans notre navigateur. Et lorsqu'on va dans la petite pièce de puzzle, la petite pièce de casse-tête, mais on voit toute la liste des extensions qui sont installées. Si on n'en a pas besoin, on efface, on désinstalle. Pourquoi? Parce que chaque extension peut venir ralentir votre navigateur. Donc, si en plus c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin, pourquoi la laisser rouler? Souvent, il y a des extensions qui vont, par exemple, chercher des rabais pour un site, ou ils vont chercher des publicités, ils vont chercher à les bloquer. Donc, ils vont toujours être actifs en arrière à chercher quelque chose sur le site où vous êtes. Donc ça, ben ça peut ralentir. En plus, ben ça peut causer parfois certains conflits. Des fois, ça peut être deux extensions qui entrent en conflit. Ça peut être un outil qui a été mis à jour, mais l'extension n'a pas été mise à jour. Donc là, on a un conflit. Notre mise en page est soudainement bizarre. On ne sait pas pourquoi. On pense que c'est le site, mais c'est pas du tout le site sur lequel on est. C'est l'extension qui est venue jouer. Donc, si vous remarquez certaines problématiques, allez donc voir si vous n'avez pas des extensions de trop qui ne sont pas nécessaires. Je donne un exemple. Adblocker récemment causait plusieurs problématiques sur plusieurs sites. Ça peut être intéressant de vouloir bloquer les publicités de nos navigateurs, mais si cette extension-là n'est pas mise à jour et pas sécurisée, elle ne suit pas là, tous les courants de Google Chrome ou du site en question, bien, elle peut venir ajouter des conflits et là, vous allez avoir l'impression que votre outil en question est lent ou votre outil ne fonctionne pas bien ou sa mise en page est bizarre et c'est pas la faute de l'outil en tant que tel, c'est la faute de vos extensions. Personnellement, je me garde un maximum de 5 ou 6 extensions maximum et je ne garde que les essentielles. Par exemple, j'ai toujours mon extension Pocket qui me permet de sauvegarder rapidement un site web ou un lien. Ça fait longtemps que Pocket existe, Pocket se met à jour, j'ai jamais eu de problème avec eux. Dès qu'il y a une mise à jour de Chrome, ils sont à jour eux aussi. Par contre, d'autres petites extensions qu'on me propose en disant, ben c'est le fun, ça fait ça ou ça amène ça qui était pas possible dans l'outil, mais je vais plutôt les garder dans mes favoris et les utiliser seulement lorsque j'en ai besoin. Fait que par exemple, un petit outil me permettrait de diviser mon écran en 4. C'est très pratique, mais je vais la mettre dans une liste de favoris. Personnellement, je les conserve dans un Wakelet. Donc, j'ai simplement à aller voir outils pour ma mise en page, par exemple, et je vais venir cliquer sur le lien qui va m'amener vers le Chrome Web Store. Je l'installe. Je suis donc certaine d'avoir la dernière version mise à jour. Je l'essaie pour le moment dont j'en ai besoin et je la désinstalle par la suite. C'est sûr que si c'est un outil que vous utilisez tous les jours, comme par exemple mon Pocket ou Toby pour Chrome que j'utilise vraiment, je pense, des dizaines et des dizaines de fois par jour, mais je veux qu'elle soit là. Si jamais vous remarquez des problématiques, ben des fois, la meilleure chose à faire, c'est de désinstaller une par une les extensions pour voir laquelle est problématique. Il n'y a pas moyen de savoir, là, il n'y en a pas une qui va avoir un petit onglet rouge tout à coup puis dire « c'est moi le problème ». Donc oui, il va falloir y aller par déduction. Une bonne astuce, c'est si vous arrivez sur un site que vous voyez des problématiques, la mise en page est bizarre ou ça me bloque, mais essayez avec un autre navigateur installé sur votre appareil. Par exemple, essayez le site sur Safari, par exemple, si vous êtes sur votre Mac. Est-ce que ça fait la même chose? Bien, vos extensions, elles ne sont pas sur sur Safari, donc c'est probablement votre extension le problème. Un autre petit test, moi, que je fais rapidement, mais souvent, je vais aller voir sur mon cellulaire si le site a un problème à partir de mon cellulaire. Mon cellulaire n'a pas dans Chrome d'extension, donc si tout fonctionne bien, sur mon cellulaire, mais pas sur mon ordi, mais il y a probablement une extension qui est problématique. Il peut y avoir des choses très, très cool qui se font comme extension. Par contre, sachez que des fois, ben c'est Joe dans son sous-sol qui a programmé une extension il y a 8 ans, quelque part en Finlande, et depuis ce temps, il n'y a jamais retouché. L'idée était peut-être bien bonne, mais s'il n'y a pas retouché, qu'il ne l'a pas mis à jour, ben elle pourrait entrer en conflit, avoir certains petits problèmes de sécurité. Donc, une bonne pratique, c'est d'aller sur le Chrome Web Store avant de cliquer sur « Télécharger l'extension », de prendre le temps de lire les avis. Est-ce qu'il y a des avis négatifs sur l'extension en question? D'aller voir qui est le développeur. Est-ce qu'on a une façon de le rejoindre au besoin s'il y a quelque chose? Et quand date la dernière mise à jour? Une extension qui ne nomme pas la personne qui l'a créé, il n'y a aucune façon de le rejoindre. Il y a des avis négatifs ou encore, elle n'a pas été mise à jour depuis 2017. Mais même si elle a l'air vraiment intéressante, je passerai mon tour. Dernier petit ménage pour l'épisode d'aujourd'hui, un ménage dans nos favoris. Si vous avez une liste interminable de favoris, il se peut que ceux-ci ne soient pas vraiment utiles. Si la liste est interminable et qu'elle n'est pas structurée, pas organisée, ça me surprendrait beaucoup que vous vous retrouviez dans ce fouillis. Ça ajoute à votre charge mentale pour rien, c'est pas nécessaire. Donc, pourquoi pas faire un petit ménage? Ça prend pas nécessairement une tonne d'espace. C'est pas ce qui va vous aider au niveau de votre storage, mais ça va vous aider à vous y retrouver plus facilement quand vous cherchez quelque chose. Souvent, on a des liens qui sont là depuis très longtemps. Les sites ne fonctionnent même plus. Donc, soit on les garde dans nos favoris de notre navigateur, mais on les organise. Donc, pourquoi pas organiser des dossiers et les classer par catégorie et on valide qu'ils sont toujours d'actualité. Sinon, delete, delete, delete et on en enlève un paquet. Personnellement, mes favoris maintenant ne sont plus dans mon navigateur, à part quelques raccourcis rapides là que je veux mettre, par exemple, parce que demain, je vais avoir besoin. Mais personnellement, j'utilise soit Tobi pour organiser mes onglets, Tobi pour Chrome, qui est mon petit outil chouchou, où j'organise vraiment les sites que je visite le plus souvent. Mais quand ce sont des sites que je me dis, ça pourrait me servir, je trouve ça intéressant, je voudrais à un moment donné pouvoir le repartager avec des enseignants, j'utilise personnellement Wakelet qui me permet de créer des collections et ensuite d'organiser mes favoris, mais d'organiser aussi des PDF, des images, des vidéos et d'organiser le tout d'une façon qui est partageable très rapidement et qui me permet même de collaborer. Donc, on pourrait avoir des listes de favoris qu'on se fait en équipe et que tout le monde ajoute ses liens pour qu'ils puissent ensuite être partagé publiquement. J'aime beaucoup Wakelet aussi parce qu'il me permet d'intégrer le tout sur un site web. Donc, je pourrais partager ma liste de favoris sur un site web qui est consultable, par exemple. Donc, pourquoi pas changer de façon de faire. Si vous aimez vos favoris dans votre navigateur, c'est génial, mais on fait un petit ménage, on enlève tout ce qui est plus d'actualité, on enlève les liens brisés, bien sûr, et on essaie d'organiser le tout dans des dossiers pour qu'on puisse s'y retrouver beaucoup plus facilement que d'avoir à dérouler une liste d'une centaine de favoris. Ça va vous aider à vous retrouver beaucoup plus rapidement. Ce sont des petites tâches qui se font facilement quand on en multitâche. Je le sais, là, le multitâche, c'est pas efficace, mais c'est efficace pour des tâches plates comme ça. C'est un peu comme quand j'écoute un balado et que je fais, je passe l'aspirateur, par exemple, mais je joins l'utile à l'agréable. Donc, si vous avez, vous êtes en train d'écouter quelque chose et qui demande quand même pas une prise de notes ou autre, ben allez faire un petit ménage de favoris ici et là. Vous êtes dans une rencontre qui dure depuis 2h30, mais ça fait 30 minutes que le sujet ne vous concerne pas. Ben prenez ce 30 minutes-là puis allez faire un petit ménage de favoris. Clic, 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 j'efface tout. Sinon, ça se fait bien devant un bon film aussi. On apporte notre appareil et on efface nos favoris. On les classe, on regarde. Sinon, ben on peut se mettre une bonne musique puis le faire aussi. mais je vous garantis que ça va être plus facile de vous y retrouver et ça va être beaucoup plus utile aussi. Surtout si vous utilisez un outil comme Wakelet, mais ça va être utile de pouvoir collaborer et de pouvoir le partager par la suite aussi. Dans un prochain épisode, je vous parle de faire le ménage des programmes dans notre ordinateur, mais aussi des applications mobiles qui nous servent moins d'organiser le tout. On va parler de fermer un paquet de comptes. Souvent, on a beaucoup trop de comptes ouverts sur un paquet de choses et on s'en sert pas. Donc, comment on fait pour tout fermer? Et on va aborder les fameux courriels. On aura beau utiliser un paquet d'autres outils, les courriels font partie du quotidien de la majorité d'entre nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour bien gérer tout ça et pas avoir gardé des tonnes et des tonnes de courriels pour rien.